l'éthique dans la puissance.
Pierre-Henri Tavoyot, vous êtes philosophe. Voulons-nous encore vivre ensemble aux éditions Odile Jacob? On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On évoquera cette fois-ci les différents scénarios possibles et la manière dont l'individualisme contemporain rend particulièrement difficile le fait de gouverner ce peuple que nous formons 8 heures sur France Culture. Le journal, Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour. Michel Barnier s'exprimera ce soir sur TF1 et France 2. Dans l'attente d'une censure, elle paraît difficile à éviter. Les députés RN devraient voter la motion déposée par la gauche.
Nous ferons le point sur le procès de l'assassinat de Samuel Paty. Hier était entendu le père de la collégienne à l'origine du mensonge contre le professeur.
Reportage dans le sud Liban, dans des villes dévastées. Le cessez-le-feu est fragile, mais il tient toujours, estime Washington.
Les frises du Parthénon seront-elles rendues à la Grèce? Elles seront au cœur d'une querelle historique entre Londres et Athènes. Nous nous intéresserons plus largement aux politiques de restitution. L'Allemagne, par exemple, a une longueur d'avance sur la France.
Le RN dépose sa propre motion de censure, mais assure voter aussi celle déposée par la gauche. Dans ce cas-là, le gouvernement de Michel Barnier devrait être renversé d'ici à la fin de la semaine. Motion déclenchée par le 49-3. Il a été dégainé hier par le Premier ministre afin de faire adopter sans vote le prochain budget de la Sécurité sociale dans une assemblée très divisée. Certes, pour la censure, le nouveau Front populaire devrait obtenir le soutien des voix du RN, mais pas question de gouverner avec le parti d'extrême droite, précise le porte-parole du PS, Arthur Delaporte.
C'est la même chose que ce qu'Emmanuel Macron avait déclaré quand il a refusé la gauche au pouvoir. Il a dit « Moi, je refuse de nommer Lucie Casté parce qu'elle serait censurée par une alliance entre macronistes et RN. » Mais la censure, c'est absolument pas le fait de vouloir gouverner ensemble. C'est le fait de refuser ensemble un gouvernement. Et en l'occurrence, Marine Le Pen a été le meilleur soutien de Michel Barnier jusque-là, et c'est elle qui lui a permis d'exister jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous disons, c'est qu'il est possible de construire d'autres axes. L'axe d'un gouvernement de gauche avec une non-censure du bloc macroniste. Et je l'espère, ce bloc, comme il est responsable et qu'il refuse l'instabilité politique, serait moins dans l'idée de nous censurer au premier aléa. Et par ailleurs, nous nous engagerions potentiellement à ne pas engager de 49-3. Donc ça, c'est une alternative possible que nous dessinons pour demain. Mais nous disons une chose très claire, et nous le dirons encore une fois mercredi. Il est hors de question pour nous de gouverner avec le Rassemblement national. Et jamais la gauche n'a voté quoi que ce soit qui vienne du Rassemblement national.
Le socialiste Arthur Delaporte au micro France Culture de Sophie Delpont. Que fera la gauche une fois le gouvernement censuré? Elle commence déjà à se fissurer. La gauche a-t-elle un plan B? Ce sera le billet politique de Jean Lémarie à 8h15, juste après le journal. Si elle aboutit, ce sera seulement la deuxième fois qu'une motion de censure est adoptée et un gouvernement renversé sous la Ve République, après celle contre le gouvernement Pompidou en 1962. Commencera alors une phase d'incertitude et donc d'instabilité, Stéphane Robert.
Une première incertitude concerne le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Le Parlement avait en théorie jusqu'à jeudi pour l'adopter. Ce ne sera bien évidemment pas le cas si le gouvernement est renversé. Alors faut-il une loi spéciale pour débloquer les crédits? On ne sait pas, la situation ne s'est jamais présentée et la loi organique relative aux lois de finances ne dit rien sur ce point en particulier. Elle prévoit en revanche le recours à une loi spéciale si le projet de loi de finances n'est pas adopté d'ici le 20 décembre. Cette loi reprendrait les lignes budgétaires de l'année précédente, ce qui assurerait un budget à minima. Et l'incertitude cette fois concernerait la réaction des marchés financiers. Les taux de prêts bancaires pourraient s'envoler et aggraver la délicate équation financière à laquelle la France est confrontée. On pourrait par ailleurs se retrouver dans une impasse politique, car la chute du gouvernement de Michel Barnier ne peut pas entraîner de nouvelles dissolutions avant l'été prochain. On conserverait donc pour les 7 mois à venir les mêmes équilibres politiques à l'Assemblée nationale et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le renversement du gouvernement de Michel Barnier pourrait bien être le premier d'une longue série. Pourrait alors se poser la question de la démission du président de la République. C'est ce que réclament à la fois la France insoumise et le Rassemblement national, misant sur une présidentielle anticipée. Jusqu'ici, Emmanuel Macron a exclu cette éventualité, qui là encore ne s'est produite qu'une seule fois sous la Ve République. En 1969, le général de Gaulle, désavoué sur un référendum, avait alors renoncé à achever son second mandat.
Michel Barnier sera l'invité de TF1 et France 2 ce soir dans les journaux de 20h en direct de Matignon. Revenons au texte qui a déclenché cette crise. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans sa version initiale, il prévoyait de faire passer le déficit de la Sécu à 16 milliards d'euros en 2025 contre 18 milliards cette année. Selon Frédéric Bizard, économiste et président de l'Institut Santé, les tractations de dernière minute n'ont pas modifié radicalement ses prévisions de déficit qui de toute façon, sont non réalistes et seront dépassés. Il explique pourquoi, selon lui, à Marie Viennot.
On est plutôt sur un consensus entre les institutions et les économistes autour de 0,6-0,7 points de croissance en 2025 et le budget prévoit une croissance de 1,1%, ce qui est significatif puisque en fait les prévisions de recettes de la sécurité sociale sont quand même très largement assises sur l'activité économique. Donc on voit bien que déjà en matière de recettes on n'y est pas. En termes de dépenses, il y a une sous-évaluation quand même assez importante des dépenses puisque quand on regarde les taux de croissance de 2023 des dépenses de santé qui sont de l'ordre de 3-4%, on est là sur des croissances inférieures à 3%. Or, on a un vieillissement de la population qui s'accélère jusqu'en 2040 et qui s'accélère malheureusement sur un vieillissement en mauvaise santé parce que on n'a pas de bras armés en matière de prévention. Et ce budget-là ne parle absolument pas de santé publique, donc il serait illusoire de penser que ça changerait. Donc, on voit bien que le budget est déjà caduque et qu'il y a une certaine logique à ce que le gouvernement tombe sur ce budget PLFSS 2025 de la sécurité sociale, parce que d'autre part, il n'y a aucun processus de prévu pour absorber les déficits. On prévoit des déficits, mais on ne prévoit pas comment est-ce qu'on va les financer, ce qui est évidemment pose problème.
L'économiste Frédéric Bizard. Journée de mobilisation dans les universités pour alerter sur leur situation financière inquiétante. 4 sur 5 risquent de finir l'année 2024 déficitaire et l'année 2025 s'annonce pire encore. La FAGE, premier syndicat étudiant, appelle à soutenir le mouvement. Dans le procès de l'assassinat de Samuel Paty, Brahim Chnina était entendu hier. Il est le père de la collégienne à l'origine du mensonge sur la présentation des caricatures de Mahomet dans le cours du professeur. Et il est poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. Il encourt à ce titre 30 ans de réclusion criminelle. Hier, il a exprimé des regrets, mais soutenu aussi des positions plutôt ambiguës. Florence Turm.
D'abord les regrets et les excuses à la famille Paty. J'ai ressenti beaucoup de peine pour lui. Confronté aux questions de la cour, Brahim Chnina admet une responsabilité dans l'engrenage qui a conduit à l'assassinat. Je ne peux pas mettre tout sur ma fille, je suis avec elle. Mais ses responsabilités se diluent au fil de l'audience. En premier lieu, vis-à-vis de la principale auprès de qui il est allé protester, épaulé par l'agitateur islamiste Abdelhakim Sefrioui, qu'il avait contacté quelques jours plus tôt sur une question d'aide humanitaire à la Palestine. Dans le bureau de la directrice, on s'est emportés tous les deux, mais elle m'aurait dit que ma fille était absente ce jour-là, Monsieur Paty serait encore en vie. Il affirme avoir aussi tenté de créer un lien avec le professeur, quand l'avocate de la famille l'accuse d'avoir lancé contre lui une fatwa numérique. Je suis sûre que si je l'avais rencontré, il n'y aurait pas eu tout cela. Position plus ambiguë en revanche sur sa relation avec Abdelhakim Sefrioui, qui doit être interrogé aujourd'hui, notamment sur l'influence qu'il aurait pu exercer sur Brahim Chnina, qui a proposé de l'accompagner au collège, habitué, avait-il dit, à gérer ce type de situation, qu'il a également convaincu de filmer sa fille, mais à qui Brahim Chnina semble vouloir ôter toute responsabilité. Ce pauvre monsieur malade et fatigué, j'ai l'impression de l'avoir embarqué dans mes problèmes et maintenant il est incarcéré à cause de moi. L'un et l'autre sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. Brahim Chnina s'en défend. Moi, j'étais tout seul dans ma démarche. Monsieur Sefrioui, il était tout seul de son côté.
Et le procès doit durer jusqu'au 20 décembre prochain.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Loin de la crise politique en France, Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État en Arabie Saoudite.
Avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, ils ont appelé hier à la tenue d'une élection présidentielle au Liban, où le cessez-le-feu, fragile, tient toujours, estiment les États-Unis, malgré des tirs. Le Hezbollah et Israël s'accusent mutuellement. Selon le ministère de la Santé libanais, des frappes israéliennes ont fait 9 morts dans des villages du Sud-Liban hier. Le Sud-Liban, où s'est rendu Omar Waman, une région dévastée par 2 mois de guerre intensive.
La ville de Tyr, à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne, pense ses plaies. Ce bastion du Hezbollah, vidé d'une grande partie de ses habitants durant 2 mois, a été durement touché. Son maire, Hassan Debouk.
Nous avons recensé entre 50 et 60 immeubles qui ont été totalement détruits. Les immeubles partiellement endommagés, mais avec des dégâts majeurs, on en a dénombré environ 300. Il y a une dizaine de jours, ils ont bombardé la principale station de pompage d'eau. Donc on n'a plus d'eau courante à Tyr. Elle est totalement hors de service. C'est un crime de guerre au regard du droit international.
Autre ville martyre, celle de Nabatieh, qui est devenue un immense chantier avec ses rues éventrées, ses nombreux quartiers pulvérisé comme celui-ci, où s'activent désormais des tractopelles sous le regard d'un homme, Jamal, dont la station-service a été rasée.
Quatre missiles se sont abattus ici, en une seule frappe. Tout a été détruit, la station-service, ma maison. Là, il y avait un immeuble, un autre ici, un derrière. Il ne reste plus rien. Ici, il y a eu 5 morts. Et là, au moins 5 aussi. Il y a eu de nombreuses victimes. Quel bénéfice a-t-on tiré en soutenant Gaza? Aujourd'hui, Gaza est détruit, le Liban aussi, et Nasrallah est mort. Le Hezbollah a fait une énorme erreur.
Et le défi auquel est confrontée la communauté internationale est de limiter l'embrasement, mettre fin au cycle de violence et de vengeance afin d'ouvrir la voie à une paix durable.
Reportage d'Omar Waman avec Alexandre Abergel. Les relations entre Londres et Athènes vont-elles s'améliorer? Elles sont empoisonnées depuis des années par l'épineuse question des frises du Parthénon. Mais aujourd'hui, le Premier ministre britannique Keir Starmer reçoit son homologue grec pour en parler. Les frises sont exposées au British Museum et la Grèce compte bien récupérer ses vestiges. À Londres, Richard Place.
Kyriakos Mitsotakis était à Londres il y a un an, pile. Sa visite lui avait laissé un goût amer. Le rendez-vous du Premier ministre grec avec son homologue britannique avait été annulé au dernier moment. Downing Street n'avait pas apprécié une interview à la BBC où Mitsotakis réclamait le retour des frises du Parthénon, décrivant la situation ainsi « c'est comme si la Joconde était coupée en deux ». Un an plus tard, la majorité a changé au Royaume-Uni et son nouveau leader va bien le recevoir. Keir Starmer ne veut pas aborder le sujet lors de leur entretien aujourd'hui, mais en coulisses, le dossier a avancé. La direction du British Museum mène directement les discussions et les juge constructives. L'objectif est de trouver un partenariat pour des échanges d'œuvres. Ces marbres pourraient donc retourner en Grèce près de 200 ans après avoir été récupérés dans des conditions troubles par Lord Elgin, ambassadeur d'Angleterre dans la région. Si le gouvernement britannique n'agit pas officiellement, il a visiblement donné sa bénédiction à ce retour, sans que l'on sache pour l'heure s'il serait temporaire ou définitif.
Sur le sujet, l'Allemagne a une longueur d'avance sur la France. Il faut dire que le volume des collections issues de la spoliation est plus important outre-Rhin, mais la méthodologie et l'impulsion politique en Allemagne contrastent avec la France. Berlin a pris conscience de son histoire coloniale très tardivement au milieu des années 2010, alors que Paris a plus souvent confisqué des biens sous couvert d'expéditions scientifique. Exemple, au Nigeria, l'ancien royaume du Bénin, un trafic violent qui a bénéficié à l'Allemagne à la fin du 19e siècle et qui a désormais son catalogue, Chloé Le Prince.
Si le chiffre précis de 5285 objets circule aujourd'hui, mis à jour, c'est parce qu'un vaste programme de recherche a démarré en 2019, Digital Benin, Bénin numérique, une base de données mise en ligne il y a 2 ans, moyennant 1,2 million d'euros de la fondation Siemens. Ça a fait des émules. L'Agence fédérale pour la recherche en Allemagne a attribué la même somme à un autre projet d'Atlas de l'absence, consacré cette fois aux biens spoliés au Cameroun, avec 40 000 objets issus du Cameroun. Ça fait de l'Allemagne le premier pays détenteur d'œuvres camerounaises au monde. Alors si ce recensement explicite a refroidi certains musées qui renâclent maintenant à rendre public leurs inventaires en Allemagne, la méthodologie allemande reste très différente de celle qu'on connaît en France, où la loi cadre attendue sur les restitutions a été repoussée. Le musée du Quai Branly à Paris vient juste de mettre en ligne, début 2024, avec le musée de l'armée, un état des sources et des outils de recherche disponibles pour étudier les objets issus de contextes coloniaux, avec seulement 2 postes de chercheuses à la clé.
Et depuis qu'un accord national a été scellé en Allemagne, c'est à chaque musée d'élaborer sa propre transaction. Une culture de la concertation s'installe pour co-décider de l'avenir des objets. Historiquement, Chloé, les revendications sont presque aussi vieilles que les spoliations.
Toutes les collections sont loin d'être réclamées et certaines revendications portent plus sur la propriété, mais pas forcément sur le fait de les conserver directement dans les pays, sur le sol africain. Rien de tel en France pour l'instant. Hein. Les 26 œuvres du trésor d'Abomey restituées en 2021 par Emmanuel Macron n'avaient même pas été choisies par le Bénin. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, les spoliations n'évoquent pas seulement la question coloniale, mais aussi le Troisième Reich et les biens juifs. Ça en fait une question hautement inflammable politiquement. Le déclic est aussi à la mesure de l'ampleur des collections. En fait, ce ne sont pas les vastes empires français ou britanniques qui ont extrait le plus d'objets, mais l'Allemagne. Bien des villes moyennes se sont dotées de leur propre musée ethnographique, par rivalité pour devenir capitale fédérale, bien souvent. L'Allemagne s'est ainsi retrouvée à la tête de 10 fois plus d'objets africains que la France.
Les précisions de Chloé Leprince. Donald Trump arrive bientôt à Paris. Le président élu des États-Unis assistera ce week-end à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, 5 ans après l'incendie. Météo France prévoit une journée plutôt calme avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation océanique. 7 degrés à Strasbourg cet après-midi, 9 à Lyon et Paris, 13 à Bordeaux et Marseille, jusqu'à 15 degrés en Corse. 8h15, suite des matins, Guillaume Herner.
Et ben voilà, on va évoquer cette censure du gouvernement. Je crois que c'est quelque chose comme ça qui pourrait bien arriver. Enfin, c'est peut-être quelque chose que vous allez évoquer, Jean-Lémarie. Bonjour dans votre billet politique.
Bonjour à toutes et à tous.
Oui. La gauche veut censurer le gouvernement et ensuite...
La gauche a-t-elle un plan B, Guillaume ? On va voir ça.
Un plan B, en tout cas un plan 2 ou 3 parties, puisque nous sommes en compagnie d'un philosophe, Pierre-Henri Tavoyot. Voulons-nous encore vivre ensemble aux éditions Odile Jacob ? Il posera donc son regard et puis nous dira, par exemple, si le prolétariat a plus à perdre que ses chaînes. Je crois que c'est une phrase célèbre d'un certain Karl Marx. On verra ça avec la gauche. Et puis, à 8h52, dans un monde connecté, François Saltiel parlera d'OpenAI. Tout le monde veut m'embêter avec cette entreprise difficile à prononcer. ChatGPT, voilà, c'est plus simple. Dans le regard culturel, François Angelier parlera de Vilain Vilaine, les figures du mal au cinéma. C'est le dernier ouvrage de Julien Magalès. Oui, parce que je dois vous dire que Lucille Caumont est un peu enrubée. Dans quelques instants, le billet politique.
LSD part à la rencontre des poissons et mammifères aquatiques qui peuplent les mers, océans et rivières de notre planète recouverte à 70% d'eau, à la découverte de leur diversité et de leur mode de vie.
Le poisson qu'on voit beaucoup et qui est en banc, c'est la sope. C'est très beau et ils sont très lumineux aussi.
LSD, la série documentaire « Comme un poisson sous l'eau » d'Élise Gruot, réalisée par Agnès Catou, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Ce midi, une table ronde critique autour de 2 romans français, Les âmes féroces de Marie Vintras et La vie meilleure d'Étienne Kern.
Marie Laborie.
Et puis notre deuxième partie sera elle aussi consacrée à la littérature. Je reçois l'autrice Nina Léger pour son livre Mémoire sauvée de l'eau.
Les midis de culture. Aujourd'hui, à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
Le billet politique, Jean-Lémarie, la censure du gouvernement Barnier, la gauche a-t-elle un plan B ?
La gauche est unie pour quelques heures ou pour quelques jours, le temps de renverser le gouvernement avec le soutien du Rassemblement national. Restons prudents, évidemment, mais c'est bien, pour l'instant, le scénario le plus probable, une chute du gouvernement Barnier demain ou après-demain. Et ensuite, immense point d'interrogation. Emmanuel Macron devra nommer un Premier ministre. Qui ? En théorie, tout est possible. Le chef de l'État peut même maintenir Michel Barnier. Et s'il se rappelait le résultat des législatives, s'il se tournait vers la gauche, arrivée en tête ? L'été dernier, vous le savez, Emmanuel Macron a refusé de le faire au nom de la stabilité. Il a donc préféré un Premier ministre de droite qui a négocié avec le RN. On a vu la suite. La gauche, donc. Hypothèse logique sur le papier, mais très, très compliquée. La gauche explique qu'elle veut gouverner, mais avec qui ? Et comment ? Avec quel soutien ? Pour obtenir une majorité, il lui manque toujours, ça n'a pas changé depuis l'été dernier, il lui manque toujours 100 de députés. Réalité arithmétique, politique et incontournable. Que propose la gauche donc ? Eh bien, un plan A et un plan B. Le plan A, pour faire vite, est celui de Jean-Luc Mélenchon, vous le connaissez, le même que l'été dernier, un gouvernement du Nouveau Front Populaire pour appliquer le programme du Nouveau Front Populaire, en discutant texte par texte avec les autres groupes. Point. Le plan B, celui des socialistes depuis quelques jours, un gouvernement de gauche, mais sur la base d'un accord avec d'autres partis, ceux du bloc central, y compris donc les macronistes. Un pacte de non-agression, un accord de non-censure, pour assurer un minimum de stabilité en attendant les prochaines élections. Cette idée-là, Guillaume, un élu l'avait déjà défendue l'été dernier, sans succès à l'époque. Raphaël Glucksmann, c'était dans une interview au Point, je cite, La gauche doit discuter avec les différents partis politiques qui ont participé au Front républicain. Fin de citation. Pour lui, le seul moyen de bloquer le Rassemblement national, un gouvernement élargi. Cette idée, il l'a toujours. Vous allez voir, si le gouvernement tombe, il va la remettre sur le tapis.
Bon, mais qui soutiendrait ce plan B ?
Alors là, bonne question. C'est très flou encore. Chez les macronistes, qui serait prêt à soutenir un gouvernement de gauche ou de centre-gauche, ou au moins à ne pas le censurer ? Difficile à dire. En revanche, je peux déjà vous dire qui refuse cette hypothèse. Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, compromis vaudrait compromission. Pas question de dialoguer avec le bloc central. Deux visions donc, deux stratégies et un affrontement brutal autour de ces deux lignes. D'un côté, les sociodémocrates, à commencer par Glucksmann, qui essaie de faire fructifier son succès des européennes. D'un autre côté, Jean-Luc Mélenchon, l'homme des 22% à la dernière présidentielle. Pour lui, pas de plan B, surtout pas, mais un plan P.
Un plan P ?
P comme présidentiel, évidemment. Ils y pensent tous, bien sûr, à gauche. Hein. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, c'est la seule chose qui compte. Et il le dit, ça compte beaucoup plus que le gouvernement. Il veut se positionner pour la présidentielle, en espérant qu'elle aura lieu plus tôt que prévu, en poussant Emmanuel Macron à démissionner et en créant un choc politique. Vous l'avez entendu le week-end dernier, Jean-Luc Mélenchon ? Il n'a pas tellement commenté cette crise gouvernementale aiguë que nous vivons, non. Il a déjà posé des jalons pour la présidentielle en proposant une candidature commune, mais à ses conditions à lui. Et à la France insoumise, personne ne fait semblant. Le candidat, ça ne peut être que lui. L'insoumis rêve toujours d'affronter Marine Le Pen, convaincu qu'il pourra la battre, c'est sa stratégie. Donc vous voyez, dans la pagaille générale, la pagaille politique autour de cette censure, la gauche joue gros. Pas seulement sa participation à un gouvernement, pas non plus la survie du nouveau Front populaire, ça c'est déjà fait, il est mort. C'est la suite qui est en jeu. Face au RN, l'existence même de la gauche, sa capacité à s'imposer, seule ou bien avec d'autres. Et avec qui, le cas échéant ? Des choix à faire donc, et des choix qui vont peser très lourd.
Bon, on va voir ce plan A, ce plan B, et puis le plan P immédiatement avec notre invité Jean Lémarie. Vous restez avec nous.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Notre invité, c'est le philosophe Pierre-Henri Tavoyot. Vous publiez « Voulons-nous encore vivre ensemble » aux éditions d'Il Jacob, à l'intérieur duquel il y a par exemple un long chapitre sur les séductions du conflit dont on va reparler, parce que finalement nous y sommes. Mais tout d'abord, une remarque, une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie dans son billet politique sur les différentes attitudes que la gauche peut adopter aujourd'hui.
Oui, on est là typiquement dans l'idée de jouer sa carte personnelle avant la présidentielle, qui reste maintenant l'objectif essentiel de tous les partis à gauche comme à droite. C'est d'ailleurs cette logique qui, probablement du côté du Rassemblement national, explique aussi cette politique du pire, c'est de dire on va faire pourrir la situation, parce que manifestement la situation est inextricable jusqu'aux prochaines présidentielles. Voilà. Alors c'est effectivement un gros risque. Sur le plan de l'intérêt général, c'est un risque colossal parce que il y a, on en parlait tout à l'heure, 7 mois d'impuissance publique totale au minimum, dans une période où les Français ont le sentiment que quand même de tous côtés les choses exigent des décisions.
7 mois donc d'ici la possibilité donc à nouveau de dissoudre le Parlement, puisque Jean Lémarie, il n'est plus possible de dissoudre le Parlement pendant un an une fois qu'on l'a fait. Et de censure, expliquez-nous un peu le mécano, comment ça peut se passer.
Alors d'abord, je vais vous expliquer seulement ce que nous comprenons à ce stade, parce que vous l'avez compris, s'agissant notamment d'ailleurs du budget et encore plus du projet de loi de financement de la sécurité sociale, on est dans le flou et vous avez des interprétations différentes. Mais s'agissant de la censure, c'est assez simple là. Demain ou après-demain, un débat autour de la censure, sachant que deux motions de censure là sont en jeu, celle du Rassemblement National, celle de la gauche. La gauche ne votera pas celle du Rassemblement National, mais le Rassemblement National a dit qu'il était prêt à voter celle de la gauche. Je reste tout de même extrêmement prudent. On a appris tout à l'heure que Michel Barnier donnerait une interview ce soir à TF1 et à France 2, ce qui va tenter une dernière fois de renverser la table, faire une nouvelle proposition. On ne sait pas vraiment ce qui peut se passer réellement, mais en l'état, oui, on va vers ce scénario, débat sur la censure dans les prochaines heures, et le Rassemblement National qui vote donc la censure de la gauche, ce qui permet de renverser le gouvernement de Michel Barnier.
Mais alors, là aussi, Pierre-Henri Tavoyot, dans ce chapitre titre que j'évoquais les séductions du conflit, vous évoquez les manières dont l'individualisme démocratique, puisque finalement c'est cela est l'une des origines de votre réflexion, comment à partir d'une société d'individus on peut aboutir à un collectif, et ce collectif il est a priori à l'origine du politique.
En fait, si on y réfléchit bien, une société d'individus, ça n'a aucune raison de marcher. C'est-à-dire que soit il y a des individus, et dans ce cas-là, il n'y a pas de société, soit il y a de la société, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'individus, en tout cas d'individus valorisés. D'ailleurs, l'humanité, dans son immense partie de l'histoire, a considéré que ça ne pouvait pas marcher. Donc, à préférer unanimement ce qu'on appelle les sociétés holistes ou communautaires, avec l'idée que l'individu n'a qu'une valeur extrêmement fugace. Alors, nous sommes donc dans un paradoxe. Voilà. Pourquoi ça marche un peu ? C'est ça qui, moi, m'intéresse. C'est que, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu difficile parce qu'on a le sentiment d'être au fond du fond de la situation et d'être dans l'exemple type du dysfonctionnement des sociétés d'individus. Mais le miracle, si je puis dire, c'est l'inverse. C'est pourquoi ça marche un peu et pourquoi ça peut fonctionner. Il me semble qu'une société d'individus, ça peut fonctionner si la société fabrique des individus, notamment par l'éducation, à condition que cet individu, ensuite, fabrique de la société. Voilà, de manière dynamique. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est non seulement intéressante, mais en plus assez enthousiasmante. Pour le moment, on est un peu focalisé sur l'allée démocratique. C'est-à-dire comment on fabrique des individus, puis cet individu qui a de plus en plus de droits. Et il faut investir désormais dans le retour, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement, cet individu doit fabriquer du lien social. Et je dois dire, il le fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il le fait, et c'est ça qui est à l'origine du livre. Comment ça marche ?
Comment peut fonctionner donc cette société des individus, Jean Lemarié ?
Oui, vous dites ça marche un peu, malgré la crise politique que nous vivons en ce moment. J'ai envie de vous poser la question autrement. Qu'est-ce qui marche encore ?
Oui, c'est ça. Je pense que qu'est-ce qui marche ? C'est ce que j'essaie d'explorer dans les 7 piliers de la convivialité. C'est-à-dire, effectivement, il y a des domaines qui arrive à dépasser ces deux tentations qui sont les adversaires de la vie commune, c'est-à-dire la tentation du repli, voilà, et la tentation du conflit. C'est deux manières de nier la vie commune. Et c'est vrai que c'est, aujourd'hui, on le voit, ce qu'on appelle l'épidémie de solitude. Les geeks qui fuient dans le virtuel. Tout ça témoigne effectivement d'une tentation du repli. Et puis de l'autre côté, de séduction du conflit, c'est-à-dire l'idée que dans un monde très complexe dans lequel nous vivons, nous sommes en quelque sorte aspirés par les scénarios de la conflictualité. Parce que ça, au moins, ça donne une grille de lecture. Il y a les bons, il y a les méchants. Et ça, cette logique de guerre civile nous attire comme clé d'explication.
Mais alors, ce qui est très étonnant et particulièrement ennuyeux pour cette démocratie, c'est que si je vous suis, Pierre-Henri Tavoyau, celle-ci repose sur un équilibre entre liberté individuelle et cohésion collective. Et c'est cet équilibre-là qui semble aujourd'hui complètement rompu.
Alors, je dirais pas rompu, faut se méfier des séductions crépusculaires, parce qu'il y a toute une série...
Non, mais pour la cohésion collective, par exemple, on voit de plus en plus des projets qui sont quand même difficilement miscibles. C'est ce que, d'ailleurs, Jean Lemarié évoquait. On pourrait aussi songer à d'autres sociétés, je pense par exemple à la société américaine.
Tout à fait. Donc, il faut surtout pas minimiser les tensions qui montent et qui ont de bonnes raisons d'être inquiets. Faut-il être pour autant désespéré ?
Voilà. Et il faut jamais...
Voilà, il ne faut jamais être désespéré. Et donc, si on n'a pas au fond, la clé du problème, c'est qu'à cette question, voulons-nous encore vivre ensemble ? On n'a plus de réponse sur le pourquoi. Dans toutes les sociétés du passé, il y avait des réponses claires. Dans une société traditionnelle, pourquoi voulons-nous vivre ensemble ? Pour respecter, être fidèle au passé. Dans une société religieuse, pourquoi voulons-nous vivre ensemble ? Parce que ça permet d'aller collectivement et individuellement vers le salut. Dans une société moderne, l'État est le garant de ce qui constitue l'idée sacrée par excellence, l'idée nationale. Après-guerre, nous nous focalisons sur le bien-être et la liberté individuelle. Et donc, effectivement, c'est une très bonne chose. Soyons clairs, c'est une très bonne chose que cette liberté individuelle et ce bien-être individuel, mais avec cette difficulté que ça met constamment en péril le social. Comment en sortir ? Pour moi, la réponse à cette question, elle est en fait très simple. Nous vivons ensemble pour grandir et faire grandir. Ça peut paraître bébête, ça peut paraître bisounours, mais je pense qu'il y a là un potentiel démocratique extrêmement puissant. Grandir et faire grandir, ça veut dire être adulte, mais on ne peut en vérité être adulte qu'en faisant grandir les autres. Et la clé de la démocratie, c'était cette attention, effectivement, à faire grandir les autres autour de moi. Ça vaut pour la famille, ça vaut pour l'association, ça vaut pour son média ici, ça vaut pour son entreprise, ça vaut pour plein de choses. Et c'est cette finalité de la vie collective que nous devons refaire émerger par rapport au discours antagoniste de la solitude et de la conflictualité.
Jean-Lémarie.
Encore une fois, et pardon d'être aussi concret face à la crise politique que nous vivons, je cherche à imaginer comment ceci peut s'incarner dans une vie politique aussi essoufflée, pour reprendre une description physique presque que celle que nous vivons. Comment ça peut s'incarner, ça, pour vous ?
Mais, d'une certaine manière, la situation d'impasse dans laquelle nous sommes, si on essaie de jouer le coup d'après, est une situation qui peut être propice. Le fait qu'on a le sentiment collectivement d'une logique de totale impuissance, je pense, est un élément qui permet effectivement d'anticiper sur quelque chose qui sera davantage positif. Il faut souvent, comme on dit, atteindre le fond pour pouvoir relancer et remonter. Je pense que ce n'est pas absolument infaisable, précisément parce qu'on est tous d'accord, et cette fois-ci, il y a une unanimité qu'il ne faut pas négliger. Tous les Français sont d'accord pour considérer qu'aujourd'hui, la situation est inextricable. C'est quand même intéressant. C'est la première fois qu'on est dans le consensus.
Jean-Lémarie.
Mais où, encore une fois, la question du lieu, les partis, les associations, ces liens informels de la vie quotidienne, une vie locale dont on dit souvent qu'elle est très active et beaucoup plus positive que la politique nationale ne peut en donner l'image, où ?
Oui, dans ces endroits, par exemple, je donne un petit exemple très, très fugace. Nous avons en France un trésor, ce sont les universités populaires, les débats qui se passent partout dans le territoire. Les Français sont un peuple d'intellectuels, c'est pour ça que France Culture a beaucoup de succès. Un peuple d'intellectuels, c'est-à-dire on aime débattre. Et au moment du grand débat, c'est quand même un truc hallucinant. Où dans le monde, une crise aussi grave que les Gilets jaunes a-t-elle pu trouver une solution dans un grand débat? Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le grand débat a été, disons, un instrument politique savamment utilisé par Emmanuel Macron. Mais n'empêche, ça a fonctionné. Ça a mis fin à cette crise politique. Et donc, ce goût du débat, musclé certes, mais qui n'est pas violent, qui est violent à la marge, est un support de notre vie collective.
Vous êtes sûr, parce qu'on pourrait avoir, hélas, une autre lecture du grand débat, se dire qu'il a suscité des espérances, que celles-ci n'ont pas été remplies, et qu'aujourd'hui, eh bien, on subit le contre-coup de cela.
Je pense que un moment positif du grand débat, ça a été au-delà de ces espérances. Enfin, les Français sont pas naïfs sur le terme d'espérance. Ils savent très bien que quand ils vont discuter, c'est pas les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ils n'y croient pas forcément. Je dirais une chose, c'est que le grand débat a eu cette vertu que vous l'avez fait. J'en ai fait quelques-uns que on voyait des gens avec lesquels on n'était pas d'accord et que ces gens-là ne paraissaient ni être des salauds ni être des idiots. Ça, c'est un travers, notamment à l'égard de l'électorat du Front National, du Rassemblement National aujourd'hui, qui est à un égard dans les médias extrêmement négatif. Il y a 14 millions de Français qu'on a tendance à considérer soit comme des salauds, soit comme des idiots. Soit comme des idiots parce qu'ils ne voient pas qu'ils sont d'extrême droite, soit comme des salauds parce qu'ils savent qu'ils sont d'extrême droite. Ce genre de truc, il faut que ça s'arrête. On est en démocratie, on doit être respectueux d'absolument toutes les opinions, non pas pour être d'accord, mais simplement pour se dire, voilà, on écoute ces points de vue divergents.
Jean-Lémarie.
Au moment des Gilets jaunes et au moment aussi du grand débat, il y avait un instrument essentiel qu'on a eu tendance à oublier, c'est les cahiers de doléances, puisqu'on parle aussi d'histoire, somme aussi de récits individuels. Ces liens entre l'expression d'une réalité individuelle, telle que les Français qui ont participé ont pu la raconter, et une expression collective. Là aussi, question du lieu et de la manière, ça se joue où, comment ce relais ou cette absence de relais entre l'un et l'autre ?
Alors, il y a des entreprises actuellement qui vont interpréter ces cahiers de doléances. Notamment, je pense à Hugo Micheron qui est en train de développer avec l'intelligence artificielle un schéma d'analyse de ces cahiers de doléances. Et c'est très intéressant parce que ça permettra effectivement dans cette masse d'éléments de faire émerger effectivement les contenus. Tout le monde a dit « moi je sais ce que pensent les Gilets jaunes ». Mais au grand défi, personne n'a lu tous ces cahiers de doléances. C'est d'ailleurs impossible par un individu. Je trouve que de faire émerger effectivement les grandes thématiques de ces cahiers de doléances feront émerger effectivement la réalité de ce mouvement qu'on n'a pas du tout saisi. Ce qui était clair dans cette affaire, c'est qu'il y avait l'expression, me semble-t-il, mais encore une fois sous réserve, le sentiment d'une partie de nos compatriotes qui ont considéré qu'ils étaient absolument exclus du débat public, du débat médiatique de la société, parce qu'ils étaient, disons, la zone périphérique, comme on dit, la France périphérique, comme dit Guy Louis. Eh bien, c'était le cri de dire « nous existons ». Et il faut reconnaître que dans la politique qui a suivi, tout n'est pas négatif. Les maisons de services publics qui se sont développées dans les territoires, comme on dit aujourd'hui, témoignent de fait que ça, ce genre de choses a fonctionné et a eu un effet. C'est pas grandiose, mais voilà, cette prise en compte, et on le voit avec le mouvement des agriculteurs aujourd'hui, de personnes qui se sentaient littéralement exclues du débat public, n'est pas négligeable. Donc, ouais, attention à ne pas céder dans la situation où nous sommes aujourd'hui à une logique crépusculaire qui ne ferait qu'aggraver la crise. Il y a des ressources en France sur la question de la vie commune. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas une question d'espérance béate, bisounours, etc. Il faut veiller à les repérer, à les identifier très précisément, et ensuite, politiquement, et c'est là où on est en crise aujourd'hui, à les étayer.
Sauf si on adopte une autre grille de lecture de la société, par exemple, une grille de lecture qui s'inspirait de la lutte des classes, et j'en parle puisque dans votre livre, Pierre-Henri Tavoyot, « Voulons-nous encore vivre ensemble ?», que vous avez publié aux éditions Odile Jacob, vous rappelez la formule de Marcel Gauchet sur l'histoire d'une oubliée, la lutte des classes. Marcel Gauchet disait que finalement, si l'on voulait comprendre le phénomène du Front National, puisqu'à l'époque c'était encore le Front National, il ne fallait pas oublier tout simplement la question sociale et que celle-ci avait été de plus en plus omise.
Elle est omise aussi par l'émergence, cette question sociale, de toute une série d'autres guerres. Qui se sont substitués, voire remplacés. La lutte des classes, ça paraît toujours un peu has-been, un peu vintage aujourd'hui. Il y a des guerres qui arrivent, qu'on nous annonce, la lutte des sexes, la guerre des générations, OK boomers, la lutte des races aussi, avec le néo-antiracisme raciste. Voilà, tout ce qu'on appelle le wokisme, en fait, moi je pense que c'est un concept qui a du sens. Le wokisme est une sorte de logique qui consiste à dire que la seule manière de lire la société, c'est la conflictualité. C'est la conflictualité, il y a les oppresseurs et les opprimés, il y a les coupables et les victimes, et c'est l'unique grille de lecture qui s'impose, qui doit s'imposer à nous. Évidemment, si on pense ça, alors là, il faut effectivement dire, on ne veut plus vivre ensemble, et il faut effectivement éliminer un certain nombre de personnes. Donc, ils sont bien identifiés, les mâles, les blancs, on ne peut pas les sauver. Donc, vous voyez, comment cette lecture, je pense qu'elle est en reflux, cette lecture wokiste, mais comment cette lecture wokiste conflictualise les rapports? Et puis, du côté à droite, il y en a une autre, il y a la lutte des civilisations, le clash des civilisations. On dit, voilà, les civilisations ne peuvent pas se réconcilier. Donc, que vous soyez à gauche ou que vous soyez à droite, vous avez des analyses du monde conflictuelles.
Alors, sauf que cette lecture wokiste, comme vous dites, et je crois qu'il y a là un terme péjoratif chez vous, Pierre-Henri Tavoyot, je veux bien essayer de la défendre, elle considère qu'elle rend en quelque sorte plus fine encore la problématique marxiste par le biais donc des luttes intersectionnelles. Elle présente des mécanismes de domination, elle met à jour des mécanismes de domination qu'il s'agit d'essayer donc en quelque sorte d'annihiler, puisque le but de toute société libre devrait être dans cette optique de supprimer toute forme de domination.
Là, si c'est ça, je suis woke. Il n'y a pas de problème. S'il s'agit de lutter contre la domination, c'est
une révélation à 8h37.
Voilà. Simplement, ce que dit le wokisme, c'est que tout est domination. Il n'y a rien d'autre. Vous croyez qu'un inconnu vous ouvre la porte, vous laisse la passer si vous êtes une femme, c'est du patriarcat. Vous considérez qu'il faut être aveugle à la couleur de peau, vous êtes raciste, parce que vous êtes colorblind, comme disent les Américains. Donc, tout est domination. C'est que même les choses les plus anodines reflètent. C'est ça que je reproche au wokisme. C'est pas du tout lutter contre les discriminations. C'est une très bonne chose. Mais c'est que le wokisme est traître aux causes qu'il prétend défendre.
J'en ai marre.
Mais n'évacuez-vous pas la réalité des conflits, la réalité, des frictions, des tensions précisément, telles qu'elles sont?
Non, au contraire, je ne cesse de dire dans le livre que ça monte beaucoup et c'est inquiétant. Encore une fois, c'est inquiétant, mais que cette inquiétude ne débouche pas sur une vision négative de la société, totalement négative de la société, avec l'idée que cette société, au fond, ce n'est qu'un champ de bataille, et qu'au fond, comme individu, la seule manière de sortir de ce champ de bataille, c'est de s'isoler dans sa bulle. Ça, je pense que c'est le péril. Retrouvons ce qui fait le cœur de notre société, je le redis encore, grandir et faire grandir. Être adulte dans une société démocratique qui a tendance à nous mettre dans une situation d'adolescent. Vous voyez, l'adolescent post-pubère, il se replie dans son monde et il s'engueule avec ses parents. Ben, on est un peu comme ça aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut être adulte. Donc, camarade démocrate, encore un effort pour devenir adulte.
Sauf qu'a priori, le gouvernement n'est pas justement notre père, le père de la nation.
En France, un peu. C'est ça, la vision, en tout cas, qu'on a, c'est-à-dire cette conception un peu parentale de l'État. Ce qui, d'ailleurs, historiquement, est assez juste. C'est l'État qui a fait la France. C'est l'État royal qui l'a fait la France. Donc, on a un rapport d'infantilisation à l'égard de cet État. Et je pense que, pour la démocratie française, nous devons vraiment devenir adultes. Et c'est beaucoup plus difficile pour nous, parce que l'État nous apparaît effectivement comme... un papa ou une maman, d'ailleurs.
Oui, mais à la fois, si on reprend la grille de lecture de Tocqueville, autrement dit, si on considère que la crise actuelle est la conséquence notamment de l'individualisme, on voit bien que cette crise, dans des pays très différents, elle aboutit finalement à des résultats qui sont des résultats sinon similaires, du moins on observe les mêmes tendances.
Tout à fait, c'est encore une fois une contradiction inscrite dans l'ADN, si je puis dire, de la démocratie, hein, c'est-à-dire cette valorisation de l'individu qui peut mettre en péril la vie collective. Simplement, encore une fois, cette contradiction n'est pas la source. La contradiction, c'est de se dire « cet individu peut produire du collectif ». Et d'ailleurs, c'est la seule manière. Quand on réfléchit au sens de notre vie, pour le dire très clairement, à notre raison d'être, quand on parle de ça pour les entreprises, qu'est-ce qui fait notre raison d'être ? Alors effectivement, si on est croyant, on en a une. Mais notre raison d'être profonde, c'est de se dire bah, « je vais faire grandir mes enfants quand j'en ai. Je vais faire grandir les gens autour de moi quand j'ai des collaborateurs. » Voilà, c'est ça qui... Et ça veut dire, est-ce que c'est égoïste de dire ça ? Non, c'est pas égoïste, parce que quand on fait grandir ses enfants, eh bien, on fait grandir le monde de demain. On pense au monde de demain, on pense au monde dans lequel ils vivront. C'est une idée extrêmement... Donc, pour moi, le motif d'ailleurs d'inquiétude, c'est effectivement la baisse démographique.
Le monde de demain, mais alors d'immédiatement, demain, Jean-Lémarie, donc une intervention du Premier ministre attendue ce soir, un vote, pas de vote, comment les choses peuvent-elles se dérouler ? Il va y avoir donc
censure. De toute façon, les motions de censure sont déposées, donc il y aura débat, et encore une fois, probablement, à l'heure où nous parlons, au jour où nous parlons, chute du gouvernement Barnier. Mais j'attirais votre attention sur cette interview du Premier ministre à la télévision, qui est assez surprenante d'ailleurs, parce qu'il semblait quand même dans l'entonnoir, là, jusqu'à ce débat sur la censure et jusqu'à ce vote. Qu'attend-il de ce moment-là ? Espère-t-il une voie pour sauver son gouvernement ? Va-t-il faire une autre proposition politique, celle qu'il n'a pas faite jusque-là ? Imagine-t-il un moyen de desserrer l'étau dans lequel il s'est largement mis lui-même, l'étau du Front National, du Rassemblement National et de Marine Le Pen ? Mystère. On va voir ça c'est dans quelques heures.
Emmanuel Macron appelait à une nouvelle élection présidentielle, mais ça, je crois que c'était au Liban, puisqu'il est actuellement dans l'avion pour Riyad. D'ailleurs, il est arrivé en Arabie Saoudite. Le journal Le Monde dit qu'il recherche activement un nouveau locataire pour Matignon, un remplaçant à Michel Barnier, nous dit donc le journal Le Monde. Mais les mêmes causes ne peuvent-elles pas produire...
C'est toute la question. C'est la question que je posais tout à l'heure. À propos de la gauche, mais on peut la poser pour l'ensemble de l'échiquier politique. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a pas changé depuis l'été dernier ? Vous vous rappelez l'impasse dans laquelle on était politiquement à la rentrée ? Effectivement, même cause, mêmes effets. Qu'est-ce qui a changé ? Et du coup, là, et ça c'est un point important, l'attention, vous l'écrivez en un mot ou en deux mots, se tourne à nouveau vers le président de la République, puisqu'il a ce pouvoir et ce devoir aussi de nommer un Premier ministre si le gouvernement tombe. Mais ce pouvoir, ça peut être aussi un signe d'impuissance. Quelle cartouche a-t-il aujourd'hui pour renouveler une situation politique qui semble extrêmement enquistée ?
Bon, moi je ne sais pas si vous êtes très optimiste. Si je vous lis Pierre-Henri Tavoyot, mon intime conviction est que le goût pour la violence est premier et c'est plutôt lui qui instrumentalise ses causes pour assouvir un insatiable désir de sang. Et vous citez « Les dieux ont soif », j'espère que ça ne se terminera pas ainsi.
Oui, ça c'est un courant, je parlais de ça à propos d'un courant minoritaire, effectivement, le courant conflictualiste de notre société, qui est aussi représenté par la France insoumise, c'est une stratégie politique, hein, la conflictualisation, c'est pas du tout un acte débridé, c'est une stratégie politique.
En tout cas, pour décrypter ces stratégies politiques et puis cette manière donc de faire du convivialisme, comme vous l'appelez Pierre-Henri Tavoyau, je renvoie à votre ouvrage « Voulons-nous encore vivre ensemble ?» aux éditions Audit Jacob. Dans quelques instants, un journal et des camarades.
Question du soir, c'est 1h30 de débat, d'analyse, de découverte pour mieux saisir l'actualité.
Quentin l'a fait.
Pour mieux appréhender aussi les idées nouvelles et les bouleversements de notre monde. Alors rendez-vous chaque jour, chaque soir, de 18h30 à 19h.
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
De nombreux penseurs et écrivains ont été traduits devant les tribunaux pour des raisons diverses.
Géraldine Mühlmann.
C'est un riche sujet car il y a beaucoup d'enjeux dans ces procès. Oscar Wilde, Emma Goldman, Jean Genet et bien sûr Socrate. Autant de procès qui donnent à réfléchir, nous décortiquons tout cela cette semaine.
Avec Philosophie, du lundi au jeudi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
François Saltiel et Lucille Comeau qui s'appellent François Angelier aujourd'hui.
Oui, tout est possible.
François Angelier, de quoi allez-vous parler ?
Des vilains et des vilaines, des figures du mal au cinéma.
C'est pas beau ça. Et François Saltiel ?
Des vilains d'OpenAI qui en veulent à la belle presse canadienne.
Voilà, la gentille Anne-Laure Chouin est là. Mais je ne sais pas si les nouvelles sont gentilles. En tout cas, c'est votre journal, Anne-Laure Chouin. Bonjour, Anne-Laure.
Bonjour, Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. En attendant de connaître l'issue finale du budget de la Sécurité sociale, les artisans taxis protestent contre les économies demandées à l'assurance maladie sur le transport des malades. Et puis, le dossier de ce 845 sera consacré aux influenceurs à qui l'UNESCO propose une formation sur la désinformation, justement. On ne sait jamais, pour les uns, un résultat inéluctable pour les autres. Ce matin, à propos de la motion de censure qui pourrait bien renverser le gouvernement Barnier, demain ou après-demain, certains veulent encore croire que la stabilité est possible. Antoine Armand, ministre de l'économie, affirmait ce matin qu'il n'y avait pas de fatalité, je cite. Mais pour les députés du RN et de la gauche, il y a peu de suspense après la déclaration hier du RN selon laquelle l'extrême droite votera une motion de censure déposée par la gauche. L'addition des deux forces pourrait suffire à réunir les 288 voix nécessaires. Michel Barnier, en sursis, donc, sera ce soir sur TF1, France 2 et France Info, en direct dans le journal de 20h. Une situation qui laisse planer plus d'incertitudes que jamais concernant les orientations financières du pays. Malgré cela, les artisans taxis continuent de se mobiliser contre des mesures d'économie initialement prévues dans le budget de la Sécurité sociale à propos des transports sanitaires. L'ensemble de ces trajets réalisés par des taxis conventionnés avec l'assurance maladie représente en effet une dépense de 2,9 milliards d'euros pour l'assurance maladie, un budget en hausse depuis 2019. Or, dans ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le gouvernement prévoyait de réaliser 300 millions d'euros d'économies supplémentaires, ce qui correspondrait, selon les calculs des représentants des artisans taxis, à amputer leurs revenus de 40%, t'arrache
les
gueules.
Les taxis font déjà du transport partagé. La FNAT, Fédération Nationale des Artisans du Taxi, rappelle que ça concerne un quart des trajets en ville et plutôt 10% dans les campagnes, car les détours sont beaucoup plus longs, donc parfois impossibles. Mais sur le principe, pas d'opposition à l'idée d'avoir 2-3 patients par voiture. Seulement, les chauffeurs veulent garder localement la main sur l'organisation. Bernard Crébassa préside la FNAT.
Si demain, l'administration décide qu'une plateforme privée puisse gérer l'organisation de ces transports, cette plateforme privée risque de demander à quelqu'un de payer. Les médecins l'ont vécu avec Doctolib. C'était quelque chose qui était gratuit et qui rendait service à tout le monde. Et aujourd'hui, les cotisations pour pouvoir accéder à ce service sont de plus en plus onéreux. Donc, on est inquiets.
Par ailleurs, les chauffeurs rappellent qu'ils transportent déjà les malades à des tarifs 20% inférieurs. Dans le département où exerce Bernard Crébassa, par exemple, un usager lambda payera 2 euros son kilomètre en taxi, mais un malade 1,60 euros. Or, les dernières propositions faites par la CNAM, il y a 2 semaines, descendent bien en deçà, s'inquiète le syndicat.
Si aujourd'hui je facturais 1,60 euros du kilomètre et que demain il me dit je vous rembourse 1 euro, puisque c'est la proposition qu'il nous a fait, moi je considère que j'ai perdu 40%. Il peut me dire qu'il mettra en place des mesures forfaitaires et tout ça, mais si je prends mes factures aujourd'hui et que je mets en place la nouvelle méthode proposée, Et tous les artisans ont fait ça. On s'est tous rendu compte qu'on était moins bien payés.
De son côté, l'assurance maladie assure que son objectif prioritaire n'est pas de faire des économies. Mais pour l'instant, les taxis semblent en douter.
8h48 sur France Culture, Anne-Laure Chouin, et on va évoquer maintenant l'influence de l'UNESCO sur les influenceurs.
Oui, c'est le dossier de ce 8h45. La branche éducation et culture de l'ONU souhaite sensibiliser les influenceurs et autres créateurs de contenu à la désinformation. Il faut dire qu'une récente étude de l'organisation auprès de 500 créateurs de contenu dans le monde révèle que près de 2/3 d'entre eux ne vérifient pas la véracité d'une information avant de la partager sur leur réseau. L'UNESCO lance donc une formation en ligne et gratuite à leur intention. L'idée, c'est de créer une communauté d'influenceurs éthiques à travers le monde. C'est un dossier signé Fiona Mogadam.
Tout est parti de ce double constat. Les réseaux sociaux sont devenus la première source d'information à travers le monde et une confiance de plus en plus grande est accordée aux créateurs de contenu. Mais en ligne, les contenus ne sont pas toujours fiables ni objectifs et avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle générative, la désinformation prend de l'ampleur. L'UNESCO a donc décidé d'agir directement auprès de ceux qui créent les contenus sur les réseaux, les influenceurs et les créateurs de contenu, sachant que l'UNESCO ne différencie pas les influenceurs qui vont par exemple promouvoir un produit ou les créateurs de contenu qui font des vidéos sur une thématique précise. Adeline Hulin est la directrice de l'unité d'éducation aux médias et à l'information à l'UNESCO.
Aujourd'hui, 80% des créateurs de contenu qui sont en ligne, ce sont des petits influenceurs qui ont plein de casquettes, qui vont passer du divertissement à, en même temps entre deux, donner des informations d'intérêt, mais parfois aussi du commentaire ou faire la pub pour certains produits.
Ces maisons africaines sont fabriquées en champignons et elles sont plus résistantes que le béton.
Mamad Dembélé a lancé il y a 2 ans et demi The Impact Story sur Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn et Facebook. Il parle d'écologie de manière positive. Il se destinait à une carrière de banquier quand il a été sensibilisé à cette thématique lors d'une manifestation au pied des tours de la Défense où il travaillait. Il a changé de métier puis s'est lancé sur les réseaux jusqu'à a fédéré plus de 700 000 abonnés sur l'ensemble de ces plateformes aujourd'hui.
Quand on commence à se lancer sur les réseaux, comme on n'a pas d'audience, on ne se rend pas forcément compte de la responsabilité que l'on peut avoir. Mais au fur et à mesure que l'audience grossit, qu'on commence à recevoir des commentaires, qu'on commence à se rendre compte qu'il y a un impact derrière le contenu que l'on relaie, tout de suite on se dit qu'il faut essayer d'avoir justement une approche plus rigoureuse ou journalistique. Et donc je me suis entouré de personnes qui avaient fait ces études de journalisme pour m'épauler et pour
Mamad Dembélé prévoit de s'inscrire au cours de l'UNESCO. La formation propose 4 modules accessibles en français, anglais, espagnol et portugais, adaptés à chaque fois aux différentes législations. Y sont notamment évoquées la vérification des informations, les sources, la liberté d'expression et ses limites. Adeline Hulin.
L'objectif du cours qu'on a développé, c'est aussi de conscientiser les créateurs de contenu sur leur rôle au sein de cette nouvel écosystème de l'information. C'est de leur donner vraiment les bases minimales en un temps assez court en fait, parce que le cours demande à maximum, je pense, 3 heures pour faire le module.
Jusqu'à présent, plus de 9000 personnes à travers le monde se sont déjà inscrites à cette formation proposée par l'UNESCO.
Fiona Mogadam, un mot rapide du temps de ce mardi, calme, quoique nuageux sur une grande partie nord, comptez de 7 à 13 degrés cet après-midi. Prochain journal de la rédaction avec Thomas Cluzel à 12h30 avec comme invité Sami Benzina, constitutionnaliste, à propos bien sûr de la crise gouvernementale en cours, mais pour l'heure, la suite des matins de culture, Guillaume Erner.
Donc, il y a une crise gouvernementale.
Il paraîtrait. Oui,
allez, mais il y a aussi 2 camarades.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
De François, et d'abord François 1.
Oui, qui n'est pas en crise.
Mais pourquoi c'est vous le premier? Pas forcément d'ailleurs. Bon, vous voulez revenir sur un groupe de médias canadiens
demain,
qui s'insurge contre le pillage de leur contenu par ChatGPT.
Ouais, ça va, je vous ai pas mis OpenAI pour pas vous mettre en difficulté, Guillaume. Oui, c'est une partie de la presse canadienne qui part en guerre contre donc OpenAI en lançant une action, une action en justice pour vol de leurs travaux journalistiques. Dans la poursuite déposée en fin de semaine à la Cour supérieure de justice de l'Ontario, ils réclament des dommages et intérêts de l'ordre de 20 000 $ canadiens par article utilisé, soit à peu près 13 550 euros. À ce tarif-là, l'addition monte à plusieurs milliards de dollars. Dans cette
force de coalition, on retrouve le service public Radio-Canada, l'équivalent de Radio France, l'agence de presse La Presse canadienne, ou encore les deux quotidiens anglophones les plus lus du pays, The Globe and Mail, et, qui est filiale de Reuters, et le Toronto Star, des éditeurs importants du paysage médiatique qui n'ont pas peur de s'attaquer aux mastodontes californiens. Ces entreprises médias qui investissent dans la production d'informations dans un contexte en crise ne comprennent toujours pas comment et pourquoi ChatGPT peut se servir gratuitement dans leur contenu pour satisfaire une audience toujours plus large, et le tout sans citer les sources. Ces courageux médias nord-américains suivent les traces du New York Times, englué dans une procédure juridique équivalente contre OpenAI depuis décembre 2023, et du courage il en faudra donc pour s'attaquer à cette start-up qui avance vite, engrange les milliards tout en restant déficitaire et n'en a que faire hein, des titres de presse qui réclament leur dû. Pour se défendre, l'entreprise de Sam Altman répond qu'elle n'a pas de problème avec la presse, hein, surtout celle qui négocie avec elle. Je pense ici au groupe Le Monde qui a noué un partenariat de gré à gré avec OpenAI au plus grand regret des autres titres français qui auraient bien aimé lancer une négociation groupée.
La presse canadienne n'est pas la seule à attaquer OpenAI.
Yes.
En justice, il y a Elon Musk, auquel vous avez consacré, je crois, un podcast, François, retrouvé sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.
Et je ne sais pas si dans ce podcast, on revient sur cette histoire que vous connaissez, Guillaume. Elon Musk a participé au lancement d'OpenAI en 2015, au moment où cette organisation était une structure à but non lucratif. Et puis Sam Altman a souhaité progressivement transformer ce laboratoire en entreprise commerciale. Une décision qu'Elon Musk n'a jamais tolérée. Il pense avoir été manipulé et trompé et a déposé une première plainte en mars contre les fondateurs d'OpenAI qui l'accusent de fraude, de conspiration et de publicité mensongère. Il demande maintenant à la justice américaine d'empêcher OpenAI de devenir une entreprise entièrement à but lucratif et accuse la start-up d'avoir violé les lois antitrust en interdisant à ses investisseurs d'investir dans d'autres entreprises spécialisées en IA générative. D'autres entreprises comme au hasard, bah tiens, celle d'Elon Musk, XAI, qui poursuit sa marche en avant. Lancée en juillet 2023, elle vient de lever 5 milliards de dollars. La troisième version de son agent conversationnel Grok 3, désigné par Musk comme anti-wokiste, s'apprête à sortir avant la fin de l'année. Alors nous sommes loin hein, du Elon Musk qui souhaitait un moratoire pour ralentir le déploiement de l'IA jugé néfaste pour l'humanité. Aujourd'hui, il constate de manière plus prosaïque qu'OpenAI est surtout néfaste pour ses affaires et compte bien utiliser son nouveau pouvoir politique hein, pour tenter d'éliminer son concurrent.
Merci beaucoup François Saltiel. François Angelier,
dit
que serait la vie sans eux, François II?
Absolument. Ah moi, c'est pas OpenAI, c'est aïe, 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 aïe.
Voilà, je vais vous parler des en français.
Absolument. Que serait la vie sans eux? Un formulaire à remplir, tout nu, tout bête, un éternel dimanche après-midi, vide en diable, ou plutôt sans diable, blette et triste. Disons la chose, sans les super méchants, les grands vilains de cinéma, avec qui l'on joue à se faire peur, grâce à qui terrorise rime avec friandise, il nous manquerait le grain de sel, la goutte de fiel qui fait déborder le vase de notre psyché trop sage. Et c'est tout l'intérêt du livre de Julien Magalhaes, paru aux éditions Hoébec, de nous en offrir un guide érudit et imaginatif, le Bédéker des vilains et des vilaines, le Wouzou des pervers majuscules, le Botin des bourreaux et des bourrelles. 20, tel sera le nombre des membres de ce club très fermé, 20 faciès, 20 coupes de cheveux, 20 regards terrorisants, 20 dégaines, 20 manières d'oxyre, qui se décomposent en 4 catégories, les moches et les beaux, les queers et les monstres. Alors, moteur et place à cette bien étrange parade. À tout seigneur, tout honneur, ouvre le bal des moches, le baron Harkonnen de la version Villeneuve de Dune, montagne de chair flasque piquée de 2 plombs de chasse en guise de regard, un méga goinfre inspiré du glouton aristocratique et du Caligula romain. Lui sert de cavalière Annie Wilkes, la lectrice au marteau du film de Rob Reiner d'après Misery de Stephen King, jouée par une Kathy Bates définitive dont la barrette à cheveux et le chemisier boutonné à mort pose question, et le crucifix pectoral témoigne d'un luisant inquiétant. Dans un style, dirons-nous, plus baroque et enjoué, se joint ensuite au groupe Immortan Joe, le méga-vilain de Mad Max Fury Road, sous perfusion H24 de méchanceté véloce et de puissance sans partage, et parachève le quadrille, le Zorg, du quatrième élément de Luc Besson, avec sa raie sur le mauvais, très mauvais côté, sa mèche hitlérienne en lame de faux, et ce regard de qui s'intéresse de près à votre malheur. l'heure qu'il prend en charge. La maison est en bonne fille, on vous en offre un complément, la Bellatrix Lestrange d'Harry Potter, à qui l'auteur trouve un air de famille prononcé avec les gardiennes de camp, les primadonnas de l'enfer concentrationnaire. C'est d'ailleurs un des aspects les plus percutants de cet ouvrage, d'aller fouiller dans l'ADN historique de toutes ces créatures au demeurant fictives, et c'est parfait. On voit ainsi qu'à la racine de nos cauchemars pour rire ou pour sourire, et c'est ce qui fait leur charme, se tiennent d'historiques malfaisants, d'authentiques nocifs qui reviennent nous hanter et persister dans une malignité validée par les faits. Une fois refermés et dûment scrutés, les faciès exposés dans vilains-vilaines, ceux qui vous entêtent, ceux qui persistent à sonner à votre porte, ne sont évidemment pas ceux qui affichent une débauche de hideur baroque et de démesure faciale, les Pères Noël ou les Castafiores de la Vilénie, mais les Madame Tout-le-Monde et les voisins de palier, comme le Patrick Batman d'American Psycho, si chic, Annie Wilkes, ou bien sûr ce grand garçon en pull, dégingandé et anxieux, soucieux de maman et disponible pour le client toute la journée, le Norman Bates de Psychose. Mortel motel, nous sommes ouverts toute l'année.
Bon, ça sont donc vos cauchemars oniriques.
Cinquième élément de Luc Besson, non?
Ouais.
T'as dit quatrième élément.
Ben voilà, c'est rectifié.
Xavier Mauduit, bonjour.
Le sixième élément, bonjour Guillaume Herner.
Vous êtes le premier élément pour moi.
Vous êtes adorable.